Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en direct de 19h à 20h. Nous sommes le mercredi 26 février 2025. Comme vous le savez, la Forêt des Possibles, c'est l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses environs. Et ce soir, c'est un petit peu particulier parce que d'habitude, nous aimons recevoir des invités qui viennent chacun, chacune présenter leur projet d'une forêt qui se tisse, qui se noue, qui s'enracine dans une société fertile, dans une société qui trace un horizon de ce vers quoi nous avons envie de cheminer, dans une société où les tensions géopolitiques sont de plus en plus accrues, où la crise économique guette, où les tensions sociales sont brutales, il est nécessaire d'organiser la résilience des territoires, il est nécessaire de projeter des imaginaires souhaitables et de se donner des ambitions pour y arriver. Mais ce soir, nous n'avons pas d'invité. Alors, plutôt que de laisser le micro, on s'est dit que on pouvait se donner l'occasion de s'évader. L'occasion de s'évader, c'est aussi une des invitations de cette émission. C'est celle de projeter des nouveaux imaginaires. Et ce que je vous propose pour ce soir, c'est de vous lire les débuts d'un livre que j'ai commencé à écrire il y a maintenant plusieurs années et qui s'appelle « Prémices ». Je ne vous en dis pas davantage et je commence ici la lecture. C'est l'histoire d'un chercheur d'or, celle d'un homme qui cherchait l'amour et son royaume perdu, un homme qui a aimé, qui a erré, qui a vécu. Cet homme, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu ni n'ai entendu le son de sa voix. En fait, je ne l'ai rencontré qu'à travers de vieilles lettres poussiéreuses entreposées dans une élégante malle postale en acajou verni d'un autre temps. Les feuilles griffonnées et jaunies semblaient abandonnées depuis des années. Notre première rencontre eut lieu un soir pluvieux de novembre. J'étais en escale à Marseille pour donner une série de concerts de saxophone. Nous devions donner une représentation dans une cave près du Vieux-Port pour un concert intimiste de jazz. Mes collègues de l'orchestre et moi avions réservé quelques chambres d'hôtel non loin de notre lieu de représentation et devions nous retrouver à dîner, place de Lanche. J'étais déjà en retard, mais cherchais absolument à nettoyer mes instruments. Avant de partir, j'avais ouvert la malle en espérant y retrouver des chiffons. À l'intérieur, un compas, une boussole, des cartes, des traités philosophiques, des textes sacrés et d'innombrables graines d'arbres et de fleurs préservées dans de petits sachets de soie, mais pas de chiffons. La malle avait probablement été laissée là par un marin ayant parcouru les Indes et les Andes. Les gérants de l'hôtel ne connaissaient ni son origine, ni son propriétaire. Lorsque je leur demandai le lendemain, ils me répondirent d'une façon peu scrupuleuse et désinvolte qu'elle était déjà là lorsqu'ils avaient racheté le fonds de commerce. Ils l'avaient sans doute gardée pour son esthétisme et l'atmosphère d'intemporalité qu'elle conférait au lieu afin de faire grimper le prix d'une chambre sans charme particulier. Quelqu'un d'autre que moi avait-il eu la curiosité de l'ouvrir ? À l'odeur de papier qu'elle dégageait, cette vieille odeur de papier, et qui me rappelait les salles de classe de mon enfance, j'éprouvais des doutes. C'est un carnet couleur ocre qui a retenu mon attention. Dessus se trouvait écrite en lettres manuscrites une drôle d'inscription. Rien dans ma poche. Tout pour la beauté du vent et de la lumière, j'ai dû faire une erreur dans ma carrière. Par curiosité, j'ai ouvert la première page du manuscrit de notre mystérieux poète voyageur et suis tombé sur une première lettre. Je restai ému plusieurs instants. De qui provenait cette soif de vivre, ces pleurs de rage et ce gigantesque cri d'amour qui déchirait la nuit? Alors que je continuais mes lectures, je refermais immédiatement le manuscrit. J'étais seul dans la chambre. Il n'y avait que les gouttes de pluie frappant ma fenêtre qu'on pouvait entendre de façon perceptible. Pourtant, sa présence était palpable. D'âme à âme, il venait de me susurrer quelques enseignements de son long périple. Chacun de ces mots résonnait comme une métaphore à mes propres questions. J'ai ressenti de légers frissons remonter mon échine, nouer ma gorge et me couper le souffle. Le labyrinthe qui s'ouvrait devant moi ne faisait que commencer et me happait comme jadis devait l'être la quête de l'Atlantide perdue. Telle est sans doute l'histoire universelle de la passion. Que faisaient donc ces lettres dans ce lieu de passage? Qui les y avait laissées ou plutôt oubliées? Dans l'hôtel d'un port, on vit, on rit, on pleure. On tombe amoureux parfois, on baisse souvent, on repart assurément. Certains y viennent pour refaire leur vie mal embarquée. D'autres pour l'oublier, c'est selon. Mais s'il est une règle universelle connue de tous les voyageurs, c'est qu'un jour sonne le chant du départ. On ne séjourne pas dans ce genre de trou à rats. Pourtant, c'est ici que Pierre avait laissé ses lettres. Négligence d'un départ précipité, acte manqué ou secret espoir que ses cahiers soient retrouvés par d'autres pour terminer à sa place l'histoire qu'il laissait inachevée. Pierre, c'est le nom avec lequel il signait toutes ses lettres. Pourtant, je n'ai jamais trouvé trace de son nom, ni dans les registres de l'hôtel, ni dans ceux du port, ni dans quelconque autre endroit. J'ai fait des recherches. Aucun des textes du recueil n'a été publié. J'ai appelé les éditeurs pour savoir s'ils avaient au moins eu un manuscrit il y a des années, une lettre d'intention, des demandes de publication. Rien. J'en suis donc tenu à son nom de plume, à son voile de pudeur pour mieux se dérober. Il me nargue. À mesure que je pensais le cerner, j'avais l'impression qu'il me connaissait mieux que je ne le connais moi-même. Pourquoi avoir cherché à entourer son existence de mystère? Est-ce que parce qu'il sait que lorsque le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit? Est-ce par secret espoir d'universaliser les enseignements que sa singulière existence lui a conférés qu'il préfère se cacher parmi les ombres? A-t-il d'inavouables secrets à faire oublier? Est-il encore vivant? A-t-il prévu de se révéler, au moins à ceux qui font l'effort de partir à sa rencontre? On entre dans ses cahiers comme on découvre un vieux parchemin. On ne connaît rien de la vie de l'auteur et de sa vie. Il laisse de ses pages incomplètes le récit elliptique de son histoire, dont notre imagination comble les trous. On ne sait pas vraiment si ce qui s'y trouve est important, ou s'il ne s'agit qu'une des innombrables contributions à la grande bibliothèque des cheminements initiatiques. J'ai pourtant ressenti le privilège de rentrer dans son intimité. Malgré les années de distance, on imagine tout le temps passé à noircir le papier. Le temps, mais aussi la patience devant l'ineffable ingratitude que peuvent rencontrer les messagers. Prendre le temps d'écrire. N'est-ce pas l'expression mégalomaniaque d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose à dire? Y a-t-il d'autre chose qui semble importante à dire que de partager les substantielles lois de l'univers que nous aurions l'impression d'avoir approchées? Peut-on être rattrapé par une soudaine crise de fausse humilité? Vouloir cacher à tout prix le travail d'une vie et laisser ces cathédrales de mots dans un parfait oubli? Comme je ne savais pas tout et malgré mes efforts pour approcher ce qui s'était réellement passé, j'ai tenté de finir son histoire. Il y a ce qui révèle et relève directement de son témoignage et toutes les zones d'ombre que j'ai complétées. Pourtant, à l'heure où je restitue ces lignes, et alors que j'ai moi-même passé beaucoup de temps à faire mienne cette histoire, je ressens comme un malaise et une pointe d'amertume de laisser cette œuvre doublement inachevée. Si Pierre a laissé le tourbillon de ses questions dans un manuscrit, sans parvenir à trouver la clé de sa partition, y suis-je moi-même parvenu? C'était le chapitre 1. Et je suis peut-être que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marin Maufray, je suis l'auteur de ces lignes. Et ce que je vous propose dans cette lecture, c'est de faire une première respiration musicale. Et cette respiration, je vous propose d'écouter Meche, le boss de Cabo Verde, que je trouve être une musique absolument magnifique. On se retrouve pour la suite, juste après ça. Nous sommes de retour sur Radio Galère, de retour au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Je suis toujours Mara Moffret, nous sommes toujours en direct de 19h à 20h et je vous propose la deuxième partie, le deuxième chapitre, pardon, du livre Prémisse, qui s'appelle L'intonation. S'il faut commencer le récit de Pierre quelque part, ce serait par une bascule. À quoi se joue une bascule ? Est-ce un événement inattendu, soudain et brutal ? Ou est-ce une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli et qui s'apprête à inverser le cours d'une destinée ? Dans tous les cas, rien n'est désormais plus comme avant. Pour Pierre, ce fut l'intonation. C'était son Big Bang. C'est dans le calme de son cossu bureau du 16e arrondissement de Paris qu'il a appris la nouvelle. La chaleur de l'été au zénith l'accablait déjà dans son costume de rigueur parmi les avocats, bien qu'insensé par de pareilles températures. L'information avait achevé de l'étouffer et l'avait contraint à desserrer sa cravate bleu marine. Il suffoquait intérieurement entre les murs ornés d'étagères comptant tout ce que la République française avait de codes, de recueils de jurisprudence, de manuels d'éminents professeurs de droit, de gazettes du palais et de revues doctrinales soigneusement rangées jusqu'au plafond, aux sobres dorures, de style Second Empire. Si les murs avaient la faculté de parler, ils auraient pu rendre compte de ces cris sourds et poliment contenus. Ce jour-là, Pierre avait reçu un appel en milieu d'après-midi, et tout avait été dit. Habitué à souffrir en silence, il savait maintenir les apparences de façade nécessaires à la vie professionnel et à l'imperturbable jeu de représentation que sont les montres de la justice et des affaires. Maître Francis, je viens vous rendre mon rapport sur les dernières législations européennes en matière de secret bancaire, de devoir d'information du banquier et de lutte contre le blanchiment d'argent. Avait glissé d'une voix ténébreuse, attendant l'approbation de son travail, Pierre. C'est excellent, avait répondu Maître Francis après avoir attentivement relu les conclusions de Pierre de son œil avisé. De sa politesse en toutes circonstances, il continua. Votre tableau récapitulatif me permet de comprendre immédiatement quelles sont les incidences de cette nouvelle directive sur la réglementation en vigueur, avec toutes les nuances des régimes juridiques correspondants. Beau travail, Pierre. C'est important de mettre l'intelligibilité de la technique juridique en avant. La semaine prochaine, vous commencerez à rédiger l'article que je vous ai commandé afin que nous le co-signions chez Dalloz. Vous savez l'importance que cela représente pour un avocat au conseil d'être publié. Il nous faut démontrer notre faculté d'excellence, tant dans notre finesse de la maîtrise de la doctrine que dans notre redoutable efficacité de la pratique. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, Pierre. Pierre accueillit les compliments d'un sourire de circonstance. Une fois la brève entrevue terminée, il rangea ses dossiers dans son cartable sans un mot. Puis, il descendit à la hâte les marches de marbre, pompeusement recouvertes de velours pourpre, typiques des immeubles haussmanniens, et s'engouffra dans une ruelle adjacente à la rue de Passy. C'est une des rares indications de lieu que Pierre avait laissé de cette époque dans ses carnets. De cette vie de bureau bien rangée, il n'avait pas retranscrit grand-chose. C'est comme si la passivité de l'existence qu'il menait jusqu'alors avait effacé de sa mémoire les souvenirs de sa vie d'avant, pour peu que l'on puisse appeler vie une destinée que l'on passe à courir derrière les ombres, tel un fantôme passant à côté de l'appel du cœur. Dans mon enquête, j'ai parfois fait un tour à ces anciennes adresses, surtout au début. Je tâchais de m'absenter quelques heures entre deux tournées de l'orchestre. Malheureusement, les avocats avaient déménagé depuis fort longtemps. La trace était perdue lorsque je retournais sur les lieux mentionnés, comme souvent. Les années passantes avaient fait leur œuvre. Elles avaient poli les souvenirs des survivants et emmené ailleurs ceux qui auraient pu parler. De toute façon, qui pouvait bien se souvenir d'un Pierre que personne n'avait connu, puisqu'il n'avait pas existé sous ce nom? Pour ne pas m'aider dans mes recherches, chaque fois que Pierre évoquait un lieu dans ses lettres, il prenait un soin malicieux à inverser les adresses. Son récit est suffisamment précis pour se faire une idée générale du cadre de ses péripéties. En revanche, à force de son abnégation méticuleuse à semer les pistes, j'étais à peu près certaine que lorsqu'il invoquait sa maison, c'était probablement la chambre d'un ami qui était décrite à la place de la sienne. Je n'arrivais jamais à retrouver les lieux. De même, chaque fois qu'une personne importante de sa vie était évoquée, les noms et attributs physiques étaient inversés et les lettres antidatées, si bien qu'il me fut impossible, là encore, de me retrouver dans son labyrinthe. Dans un premier temps, je me suis acharné à rechercher la trace matérielle, palpable et réelle de Pierre. Je voulais savoir s'il était encore en vie. Je voulais lui parler et rencontrer les personnes qu'il avait connues. Je voulais avoir une explication. Au fil des mois, je me suis lassé des barricades qu'il avait soigneusement entreposées pour ne pas être trouvé. Je me suis résolu à retranscrire telles quelles ces indications de lieu, quand bien même elles n'étaient probablement pas bonnes. Je suis frustré de ne pas en connaître la cause, mais j'ai fini par me faire une raison. J'en voulais parfois à Pierre de m'avoir harponné à la vie d'un homme dont je ne savais même pas si ce n'était pas simplement une fable créée toute pièce. Alors, ma quête s'est transformée en la recherche d'une trace intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. À défaut de pouvoir rencontrer cet homme, peut-être pouvions-nous au moins nous retrouver à ma âme. En parlant de son âme, La sienne était en perdition ce soir-là. Il marchait hagard sur son trajet habituel reliant son cabinet d'avocat à sa station de métro. Je ne pleure pas. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas vraiment étonné non plus. Pas même en colère. Non. Je marche seul, comme souvent. Je ne suis qu'un preneur, comme tant d'autres. Personne ne devinera jamais. Se répétait-il à lui-même, comme pour se rassurer que tout allait bien se passer. En réalité, il ne pensait à rien. Et c'était suffisamment rare pour être souligné. Signal mort. Les plombs venaient de sauter. La violence de l'annonce a fait comme un petit craquement à l'arrière de son crâne. Sur le coup, il se demandait si son corps allait supporter le choc. Allait-il faire une crise cardiaque ? Il ne se posait pas la question très sérieusement. Il n'avait pas vraiment envie de réfléchir. Il n'arrivait pas vraiment à réfléchir. Il arborait ce rictus parfaitement idiot devant le désastre. Son monde venait de s'effondrer et il était là, avec son sourire béant, ses mains sur les hanches et le regard dans le vide. Il ne mesurait pas la gravité. Il savait juste que c'était la fin d'un monde. Et il regardait. Il avait cette forme de sérénité devant l'absurde. Le soir, il est rentré chez lui et a dîné en famille. Je ne me souviens plus vraiment de cette soirée d'été. Elle devait être comme tant d'autres, écrit-il. Peut-être ai-je dîné sur la terrasse. Peut-être a-t-on mangé une salade de riz, peu importe. Il ne remarque probablement rien, tant mieux. Je ne vais quand même pas leur refaire le coup de mes amours aphones. Je ne vais pas une nouvelle fois les peiner de mes cris sourds. Je ne ferai pas d'insomnie. C'est une soirée complètement normale en réalité. Se répéter Pierre en boucle pour mieux se rassurer. Il n'a pas fait de crise cardiaque. C'était prévisible. Pourtant, il savait que tout avait explosé. C'était inévitable. Il n'avait juste aucune idée de l'ampleur et de la portée de ce qui venait de se passer. Mais cette fois, la digue qui contenait tout à l'intérieur avait cédé et ne pouvait plus contenir ses larmes et ses cris. Chapitre 3. Le doute qui vous prend aux tripes. Tout commence souvent comme cela. Le doute existentiel arrive par une porte dérobée. Un accident, une maladie, le décès d'un être cher, une rupture. En somme, un imprévu que la vie nous réserve. Il est sain de douter. Cela nous permet de rester en éveil du monde et de son mouvement incessant que notre conditionnement ne nous permet de saisir qu'avec parcimonie. Comment peut-on être et agir avec justesse ? Si on ne doute pas de nos croyances trop profondément ancrées et rigidifiées, tout n'est que de passage, n'est-ce pas ? Le doute existentiel, c'est autre chose. Il vous amène beaucoup plus loin. Il s'introduit dans la fente entrouverte par la surprise. Il fait chanceler nos fondations, incertaines. Il ne prend que lorsque le foyer est propice. Il sème la zizanie partout où se trouvent nos zones d'ombre pour nous les mettre en exergue. Comme un pied de nez à votre prétention passée. Chez Pierre, l'intonation est venue frapper en plein cœur. L'explosion fut générale. Lui qui était si sûr de son fait s'était lourdement trompé. Une question obsédante a fait suite à la détonation. Il s'était toujours dit qu'en cas de problème majeur, il pourrait suivre son instinct. Or, son instinct venait de l'envoyer dans le mur. Si sa plus intime des convictions s'était révélée fausse, en quoi pouvait-il continuer à croire ? Ma boussole interne venait de se briser, relate-t-il dans ses carnets. Les vannes du doute étaient ouvertes, prêtes à tout emporter dans leur néant. Comme l'eau s'infiltrant dans chacune des cales d'un navire qui sombre, le doute est venu s'attaquer, les unes après les autres, à chacune des certitudes de ma vie pour les faire tanguer. Santé, spiritualité, amitié, intimité, projet professionnel, compréhension du monde et place que l'on veut y prendre. Le doute est rentré par la craquelure de mes espoirs brisés et a eu pour effet de faire tournoyer le monde entier dans ma tête comme une dangereuse incertitude que je n'aurais pas bien comprise jusqu'alors. Je venais d'entrer dans une crise existentielle qui n'avait d'équivalent à l'immensité de sa pénombre que son aspect visqueux et noirâtre. Je savais déjà que l'infinie complexité du monde est inaccessible à notre regard. Nous percevons le monde par nos sens. Nous ne sommes que des hommes. Ce regard ne peut être que subjectif, incomplet et sensible. Il nous manque implacablement la faculté d'omniscience. Pourtant, quelque chose a changé. C'est comme si je voyais désormais plus nettement, mais avec moins de certitude. C'est très surprenant. Avant, j'avais du mal à admettre de ne pas être capable de tout connaître. Parfois, j'affirmais avec force des choses qui me paraissent aujourd'hui hérétiques. J'en étais pourtant persuadé à l'époque. Est-ce que je considérerais demain mes idées d'aujourd'hui avec le même malaise ? L'humanité tout entière a vu passer des générations de savants et de génies à s'être cassé la tête toute leur vie, à tenter de percer les secrets de l'univers pour ne jamais les trouver. Pierre commençait à abandonner l'ambition absolutiste de vouloir tout comprendre. Si les autres n'y étaient pas parvenus, il était fort à parier qu'il n'y arriverait pas non plus. Lui qui détestait le fatalisme aurait à se faire une raison. La sagesse, dit-on, n'est pas de savoir plus que les autres, mais de savoir faire et de savoir vivre avec la part incompressible du mystère. Il était en train d'en faire le douloureux mais libérateur apprentissage. Pourtant, le doute a les vertus de ses méfaits, continue-t-il à écrire dans ses textes. Il vous tend un miroir vers ce que vous n'aviez pas vu ou voulu voir. Dans ce que vous percevez comme l'obscurité, il vous éblouit de réalités jusqu'alors inconnues. Je faisais l'expérience de la théorie de la caverne. J'avais été complètement aveuglé par la lumière d'une forme de vérité fondamentale qui m'aurait été tendue après avoir, toute ma vie, appris à me contenter de vivre parmi la pénombre. Avait-il écrit dans ses lettres quelques années après l'intonation. Moi, quand je lisais ça, ces affirmations me questionnaient. D'un côté, si Pierre pensait s'être rapproché d'une forme de vérité, pourquoi s'était-il obstiné à cacher son identité plutôt que de révéler au plus grand nombre ce qu'il pensait avoir découvert ? De l'autre, comment ne pas faire sienne cette expérience ? Il y a quelque chose de touchant dans la pure sincérité d'une épreuve vécue. Elle est unique. Et celles ceux qui l'ont vécue peuvent réellement la comprendre. Pourtant, elle nous relie à l'expérience universelle. Je n'ai pas connu Pierre, et j'ai mis un certain temps à comprendre les raisons de sa crise existentielle. Pourtant, dès l'origine, j'étais touché de l'émotion palpable qui se dégageait. Je pouvais aisément la ressentir. C'était son histoire, mais c'était notre émotion. Moi aussi, je suis passé par là. Il y a quelques années, mon père est mort d'un accident de voiture. La veille, il était parti en voyage d'affaires. Le soir, Ma mère m'attendait en larmes dans la cuisine. Si j'avais su que c'était son dernier voyage, je lui aurais peut-être pardonné mes maladresses et ses mots parfois inutilement blessants. Le souci, c'est qu'il est parti sans dire au revoir. Sans doute lui-même ne l'avait pas envisagé. Il a laissé un gigantesque vide derrière lui. Dans les premiers temps, je lui en ai parfois voulu, de nous avoir quittés comme un voleur. J'ai ressenti un mélange de peine immense, d'incompréhension, de rage devant l'injustice et de colère de ne m'avoir abandonné. J'étais confronté à l'absurdité de l'absence et du précipice qui me faisait des appels malins. La veille, papa était là. Le lendemain, il n'était plus. Les années qui suivirent ont été difficiles. La fêlure est toujours là, quelque part. Pourtant, l'or du temps finit toujours par révéler ses trésors insoupçonnés. Dans mon malheur, j'ai eu la chance, si on peut appeler ça comme ça, de m'être posé les bonnes questions au bon moment. Plutôt que de m'enferrer dans une vie plombante, quand j'étais au bord du gouffre, c'est moi qui ai consenti de continuer à vivre. Alors, je me joins à Pierre dans l'expérience du doute. Au même titre que les cycles de la journée et des saisons sont pleins de subtilité, le jeu des ombres n'a rien de binaire. Il est subtil et crépusculaire. C'est ce qui fait sa cruauté et sa beauté. Cette expérience a de fascinant qu'elle nous bouleverse et remet tout en question pour nous donner l'impression que rien n'a réellement changé. Il s'agit d'un étrange sentiment d'avoir été plongé dans une grande machine à laver. On perd pied, les idées et les sentiments tournoient, et finalement il s'agit d'une invitation à nous ajuster avec nous-mêmes et avec ce qui nous entoure. Plongé dans une crise existentielle nous invite à tout interroger sur notre raison d'être au monde et à la juste place que nous voulons y prendre. On regarde notre finitude dans les yeux et on apprend à en connaître le prix de l'existence. La première lettre que j'ai trouvée dans la malle m'avait bouleversé pour cette raison précise. À la sortie de sa période d'exploration des profondeurs, Pierre avait écrit une vibrante profession de foi pour que renaisse un monde nouveau. Il fallait avoir fait long voyage pour formuler un tel vœu d'amour. Dans sa lettre, à mes petits-enfants. Mes chers petits-enfants, comment vous le dire? Je ne vous connais pas encore et donnerai ma vie pour vous rencontrer. En notre époque, les temps sont délicats. La terre brûle, mais la fête continue. Danse irlandaise sur le pont du Titanic, 5 minutes avant un pacte, insouciant de ce qui se passe sous nos pieds. Roulez, jeunesse, nous sommes quelques-uns à comprendre, stupéfaits. Je vous prie de ne pas trop nous en vouloir. Ils croient encore dans l'intelligence artificielle, la voiture autonome, le libre-échange, et que leur argent pourra tout acheter. S'ils savaient, nous avons toujours appris que rien n'arrêtait le progrès. Ils ne peuvent pas concevoir que tout puisse s'arrêter. Nous autres qui avons compris ce qui se tramait, nous sommes glacés. Nous regardons Agar, Icare, s'envoler un peu plus vers le soleil. Si seulement nous n'étions pas, nous aussi, à bord du même vaisseau. La forêt vierge brûle, les pôles fondent, les océans succombent de plastique, les écosystèmes s'effondrent, les abeilles disparaissent, les sécheresses se font virulentes, les urgences hospitalières craquent. Les agriculteurs se donnent la mort. Les employés grognent. Les migrants climatiques se pressent toujours plus nombreux sur les routes. Nos démocraties se noient dans la bêtise. Nos sociétés se déchirent. Et tout ça est parfaitement interdépendant. Comme un château de cartes dont il suffirait de n'en retirer qu'une pour que tout s'effondre. Et pourtant, dans nos villes, la relative accalmie avant le déluge. Le jardin du Luxembourg a été arrosé tout l'été. nous ne voyons rien. Nous avons juste eu un peu chaud au mois de juillet. Certains espèrent encore que la croissance sera bonne l'année prochaine. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que donner les réserves de fourrage d'hiver dans les fermes en plein mois d'août se paiera peut-être dans notre assiette en février. Ils ne réalisent pas que l'assèchement des nappes phréatiques se sentira un jour ou l'autre au robinet. Ils ne conçoivent pas que l'Amazonie qui brûle se percevra l'été prochain dans l'air brûlant que nous respirerons. Ils ne comprennent pas que nous payons nourriture et énergie en dessous du prix coûtant et qu'un jour nous devrons payer l'addition. Et toutes ces populations à qui leurs médias répètent en permanence que le but d'une vie est le pouvoir d'achat, comment réagiront-elles quand tous les biens du quotidien deviendront des possessions de luxe ? Ont-ils déjà étudié comment se forment les révolutions depuis leur tour d'ivoire ? Comment ne peuvent-ils pas concevoir que tous ces dérèglements vont charrier leur lot de violence, dont ils ne seront pas épargnés dans leur immense centre urbain ? Ils pensent aller où après ? Ils parlent de principes de réalité, mais jettent l'opprobre sur les rapports scientifiques unanimes du monde entier. Ils ont fait les plus grandes études, sont médecins, scientifiques, avocats, mais ne voient pas les logiques systémiques qui sont en œuvre. Je ne comprends pas comment ils peuvent rester aussi aveuglés, ou pire, insensibles. Je vous dis ça, mais en fait, si, je comprends. Il y a 400 ans d'histoire derrière nous. L'esprit cartésien, la promesse du progrès, le développement de la puissance occidentale grâce à ses révolutions industrielles où nous avons dompté la nature. Certains ont fait fortune de ce modèle. Faire machine arrière, c'est envoyer leur vie entière et toute leur représentation du monde aux orties. C'est un effort psychologique insupportable pour eux. On n'arrête pas un train en marche d'un claquement de doigts. Mais sachez que nous ne baisserons pas les bras. Jamais. Chaque jour, je me lève en pensant à vous. Mes chers petits-enfants, il y a quelques mois, j'ai quitté une multinationale parce que mon travail était de négocier pour que le plastique ne soit pas interdit. Vous vous rendez compte ? Cela me rendait fou. Chaque matin, j'y allais en tremblant, haïssant un peu plus ce système pourri qui souille mon âme pour quelques billets. Si vous saviez combien ces enjeux m'ont tourmenté, j'en ai fait des nuits blanches. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout arrêter. Toutes ces études, tous ces efforts, pour voir un monde se déliter sous mes pieds au moment de prendre mon impulsion pour m'envoler à mon tour. Et en plus, je constatais qu'autour de moi, tout le monde ne réalisait pas. Trop ancré dans leurs schémas anciens. Un cauchemar. Alors j'ai pensé à vous. Je voulais avoir l'honneur sauf à vos yeux. J'ai démissionné en conscience. Défendre les intérêts court-termistes de l'entreprise pour laquelle je travaillais, au détriment du temps que nous passerons ensemble, m'était parfaitement intolérable. En partant, j'ai eu la chance de m'entretenir longuement avec son patron après l'avoir interpellé par lettre. J'ai essayé de le convaincre que lorsque l'on sentait le vent social et environnemental tourner, il fallait lâcher sa voile économique et l'aborder de l'autre côté pour virer le bord et ne pas casser son mât. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'inciter à insuffler un avenir souhaitable et que son entreprise crée une brèche plus vertueuse dans laquelle toute la société pourrait s'engouffrer. Je suis convaincu qu'il fait déjà de son mieux. À plusieurs reprises, j'ai rencontré le maire de ma ville dont je suis élu. Il est incité à changer à tout prix sa politique environnementale. Je vois qu'il bouge. Je suis heureux. Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser ce qu'il se passe. Les mentalités évoluent, doucement, mais sûrement. Les ralliements se font un à un. Il faut se laisser toucher dans son cœur. Moi-même, ça n'a pas toujours été ça. il me reste encore tellement de chemin à parcourir. Ma propre évolution est mon espoir. Si j'en suis capable, les autres le peuvent aussi. Je fais ce que je peux. Mais sachez que nous sommes des millions de petites mains, tapis dans l'ombre, cherchant à résister. Au fait, je me rends compte que j'utilise des notions que vous ne connaissez peut-être pas. Multinationales, mer, argent. Ce sont des imaginaires collectifs que nous nous sommes inventés dans les temps dits modernes pour que nous puissions nous entendre et faire société ensemble. Peut-être que vous aurez d'autres structures sociales et codes autour desquels vous retrouvez. Je vous le souhaite. J'espère en tout cas que vous me comprenez lorsque j'emploie ces termes bientôt désuets. Après mes mésaventures, j'ai pris le temps de m'arrêter quelques instants et de redécouvrir les matins. La nature s'est offerte dans son plus bel appareil à mes yeux ébahis. Quelques jours d'hiver dans un monastère millénaire au large de la Méditerranée, le ciel s'est drapé de lueurs dont je n'aurais pu imaginer jusqu'alors la beauté. Après une période si noire, l'aube fut pour moi une promesse de vie. Pendant plusieurs mois, j'ai fait un pas de côté. J'ai lu, écrit, médité et rencontré plein de gens incroyables que je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir dans des bureaux parisiens. J'ai été surveillant dans une école. On a bien ri avec ces élèves pleins de vie. J'ai fait des paniers de fruits dans des chambres froides les dimanches après-midi. J'ai été vendeur dans un centre commercial où j'ai rencontré une jeune immigrée algérienne dont l'intelligence m'a bouleversé au regard de sa situation si délicate. J'ai réalisé un peu plus que j'avais la chance d'être bien né et écouté pour mon rang. Plus que jamais, je me suis dit que je n'avais pas le droit de rester impuissant, passif, que j'avais une responsabilité sociale. Sur mon chemin, j'ai croisé des artistes aux Canaries dans un centre culturel et environnemental où j'ai partagé ma modeste chambre avec un clown chilien. Tout au long de ce volontariat, j'ai vécu de peu, mais avec une opulence d'art, de beauté, de respect de la nature et de conversations interminables à refaire le monde, dont mes contemporains ne pourraient pas se douter. Ce que j'ai perdu de confort, je l'ai gagné mille fois en richesse des relations humaines. Ils m'ont montré qu'un autre monde était possible, riche de sens. Lorsqu'à mon départ, j'ai reçu de mes amis musiciens une longue lettre me remerciant pour nos discussions et me souhaitant bon courage dans ma mission. Vous n'imaginez pas les larmes qui ont coulé sur mon visage. Pour réduire mon empreinte carbone, je suis rentré de ce long séjour sur un bateau de marchandises. Coupé du monde, cette expérience à regarder les étoiles sur l'Atlantique comme au fond de moi-même était à couper le souffle. Si les âmes grisâtres des faubourgs parisiens pouvaient seulement saisir qu'il existe un monde pétillant à côté du leur. En fait, tous ces mois, j'ai alterné mon temps entre deux mondes qui ne se parlent ni ne se comprennent. C'est si dommageable. Je ne sais pas quel monde nous vous laisserons, mais nous allons y arriver. Mes chers petits-enfants, je vous le promets. De mes angoisses de jeunesse, un jour, nous rirons assis au bord d'un lac. Nous allons inventer de nouveaux paradigmes pour nous en sortir. Un monde s'écroule, mais la nature a horreur du vide. Et un autre émergera. Il émerge déjà. Il suffit de le regarder naître dans la bouche des enfants. Des nards, des arts, de la beauté, de la sagesse, de l'imagination humaine sans limite, du courage devant l'abîme, du partage, de la symbiose avec la nature, nous trouverons notre salut. Pendant tout ce temps, j'ai ouvert mes horizons pour tenter à tout prix de trouver des solutions et de les construire avec les gens qui y croient. Et ils sont là. La relève est là à prendre le flambeau. Récemment, j'ai intégré un groupe de jeunes décidés à prendre leurs responsabilités. Nous mettons en commun nos compétences pour nous engager dans la société, pour connaître nos aspirations profondes et porter nos voix auprès de nos dirigeants, pour tenter de les convaincre de changer leurs politiques environnementales et sociales. nous avons été accueillis à bras ouverts à l'Académie des sciences pour une réunion du G7. C'est complètement fou. J'ai 24 ans et les portes de toutes les institutions s'ouvrent à ceux qui seront à même d'éteindre l'incendie dont elles sont les responsables. Nous, jeunes en ce monde qui se meurt, nous n'arrivons pas à élancer notre vie sans nous dire que dans 30 ans, nous ne serons probablement plus là. C'est comme si nous avions appris que nous avions le cancer. Alors, la conscience de ce triste constat a considérablement accéléré notre maturité vers la sagesse. Nous qui avons compris que la vie était précieuse et éphémère, nous la vivons avec d'autant plus d'intensité. C'est en réalisant qu'un jour nous ne serons plus de ce monde que nous prenons conscience que nous sommes vivants, pleinement. Aujourd'hui, c'est nous qui disons aux anciens ce que l'expérience devrait leur avoir enseigné. Ce monde marche sur la tête. Il est effrayant. Mais jamais il n'a été aussi passionnant. L'histoire se déroule sous nos yeux, chaque jour, avec l'opportunité d'en être un acteur. Sachez que nous mettrons à chaque instant tout notre cœur, toute notre énergie, toute notre âme. Nous y parviendrons. Nous ne sommes pas tout seuls. Combien sont-ils aujourd'hui, tous ces jeunes et moins jeunes paumés, qui ne veulent pas s'élancer dans un monde vide de sens et qui ont pourtant des rêves plein la tête? Combien sont-ils à n'attendre qu'à s'envoler vers un avenir à réaliser en commun, à n'attendre que l'étincelle pour enflammer leur cœur d'enfant, à attendre qu'un autre chemin soit montré? Nous sommes des millions à le chercher à nos portes. Si je n'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est que pour les avoir empruntés, ces chemins existent. Je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus pour que nous abandonnions nos habits de tristesse et nos plans sur la comète et que nous nous embrasions de joie à sauver ce monde malade. Mais nous y arriverons. Pour vous, pour nous, nous nous trouverons, nous nous lèverons et nous y arriverons. Je vous en fais la promesse solennelle. Mes chers petits-enfants, je ne vous connais pas encore, mais sachez combien je vous aime. Il me tarde un jour de vous prendre dans mes bras. Je vous embrasse tendrement. Marin Maufray. Dans le livre, c'est Pierre. J'en dirai pas plus. C'était les trois premiers chapitres de Prémisse, l'introduction. Vous écoutez La Forêt des Possibles, en direct, de 19h à 20h sur Radio Galère au 88.4. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser embarquer par une musique que je trouve absolument superbe qui s'appelle Bach Christo de Kekele. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Salakateo, mona bakoma koteka bonganga nzambe o
bokomi kobangisa biso ndenge ya kolinga nzambe kesini te o kozala mokristo to mopakano nzambe ya kosunga ndenge ya moko soki osengi nzambe akopesa soki osengi ye akopesa o mpona nini lelo bokomine kokabola biso na nzambe o bino mitema nde mabe
Señor de su creador piensa que Dios pertenece solamente una nación el Señor nos ama tanto que mandó a su hijo amado a que muriera en la cruz y a lavar nuestros pecados casa de Dios, donde espera el Cristo vivo. Jesús es la salvación, es la luz, es el camino.
mosala tokona bango balobi tokende paradis teo. Tambe osala moto na moto e na mosala na ye na lorenge na ye. Bango balobi bango ba Kristo e biso tozali bato ya monde o. Kozonga onse, doko samba na bino e doko.
Kozali mbe bana,